Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du avril 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Kirouac.
Bonjour Marie, bonjour Yvan.
Bonjour à vous deux aussi.
Et bonjour Yvan, voilà.
Ah, j'ai dit trop vite, hein?
Ah, vous venez trop vite pour dire
faut
bonjour.
Faut pas oublier de dire bonjour aux auditeurs.
Bonjour, bonjour les auditeurs.
Vous. Et Mathieu Tessier qui est en régie. Bonjour Mathieu.
Bon matin.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Ben moi, un des signes du printemps à Montréal, c'est l'arrivée des Bixi.
Oui.
Comme les bourgeons. Et je vais vous parler d'un article là, qui nous parle des Bixi, mais à l'étranger.
D'accord.
Mais vraiment les Bixi, pas les autres vélos de libre-service. Mm-hmm. Et dans ma deuxième intervention, je suis allé voir des articles. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir la revue Paraquad. C'est le magazine de Moelle Épinière et Motricité Québec. Alors, je vous parle de deux articles que j'y ai trouvés.
Bon, excellent. Et Monique?
Eh bien, de mon côté, nous allons remonter dans le temps. Dans un premier temps, oui. Je vais vous parler de relations entre les Montréalais et leurs chevaux au tournant du 19e siècle.
Ça, c'est juste avant les Bixi.
C'est juste avant les Bixi, exactement. Dans un deuxième article, on découvre comment les hommes préhistoriques ont survécu à une grande catastrophe naturelle. 3 points de suspension.
Oh, on a hâte. Et de mon côté... Alors, je vais vous lire un texte qui brosse un portrait économique. Oui, économique. Je vous parlerai d'économie.
Vous parlez
de chiffres? De chiffres, oui. Et donc, de notre système de garderie au Québec. Mmh. C'est très, très éclairant pour les parents. Alors, voilà, on commence. Monique, on commence avec vous.
Oui.
Les chevaux.
Les chevaux. Alors, oui. C'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'Université de Montréal qui a été publié le 4 avril dernier, qui s'intitule « Les relations entre les habitants et les chevaux au 19e siècle ont façonné l'urbanisation de Montréal ».
Ah ben.
Ah ben.
Hein?
Il y a à peine un peu plus de 100 ans, chevaux, vaches, porcs, moutons et poules... Et c'est parti, on a une chanson en tête.
Oui,
hein? Vos
vaches
adieu,
vaches
et cochons. On dira adieu à un moment donné. Était partie intégrante de la vie de Montréal. Alors, quelles relations les Montréalais avaient-ils entre eux et avec leurs montures et leurs autres animaux dans l'espace public urbain? C'est ce qu'a exploré Catherine Paulin dans ses recherches de maîtrise menées au département d'histoire de l'Université de Montréal sous la direction de la professeure Michèle Dagenais. Et ce qu'elle a découvert lui a valu l'un des prix d'histoire du gouvernement du Canada qui souligne le travail exceptionnel d'étudiants d'université. Alors, on l'en félicite
quand même.
À la fin des années 1800, le transport des personnes et des marchandises à Montréal reposait essentiellement sur le cheval. Et à la faveur de l'industrialisation naissante et des emplois qu'elle créait dans son sillon, la ville connaissait une vague de migration en provenance des milieux ruraux, on s'en doute bien.
Mm-hmm.
La présence d'animaux dans les quartiers de plus en plus peuplés était alors monnaie courante puisqu'ils assuraient en bonne partie la survie des Montréalais. Les animaux vivaient en ville et ils ont influencé tant l'activité des citadins que le développement de leur ville. Et les Montréalais étaient dépendants des chevaux qui constituaient la machine, faisant fonctionner la ville au quotidien au 19e siècle. Ce, sous le seul angle de l'analyse des archives de la ville de Montréal, tels les règlements ou les rapports annuels, les animaux apparaissent surtout comme des nuisances qu'il fallait limiter. Aussi, dès la fin des années 1880, les porcs, vaches et moutons devinrent moins visibles, voire interdits dans le paysage urbain, d'où le adieu. Catherine Paulin est parvenue à comprendre pourquoi en examinant notamment des images du musée McCord et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des cartes topographiques de compagnies d'assurance et incendies, et des plaintes envoyées aux autorités policières à l'époque. Des plaintes. Elle s'est aussi tournée vers des articles de journaux, des documents d'archives de l'Université McGill et du Fonds Montreal Parks and Playground Association. Donc, plus l'industrialisation prenait de l'importance, plus les chevaux de trait étaient éloignés des milieux urbains, centraux et bourgeois, ce qui reflétait les relations entre les habitants eux-mêmes, explique Mme Paulin. La documentation étudiée révèle que les chevaux associés aux cochers dérangeaient et les plaintes déposées l'étaient parfois en raison des mauvaises odeurs.
Ben,
les odeurs incommodaient et étaient associées au miasme et au risque de contagion par la maladie. C'est d'ailleurs à la fin du 19e siècle que voit le jour la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux.
Okay.
Je ne pensais pas que ça datait d'aussi loin.
Oui.
Qui, au-delà de l'aspect moral, se préoccupent aussi de l'aspect économique que leur présence comporte pour ceux qui gagnent leur vie en se servant des animaux, que ce soit pour le travail ou pour produire de la nourriture. C'est aussi à cette époque que les abattoirs situés à Montréal sont déplacés en périphérie. De tous les animaux qui cohabitent avec les Montréalais à la fin des années 1800 et au début des années 1900, les chevaux figurent le plus souvent dans les archives photographiques. Bien sûr, puisque les autres, on les a interdits. Mm-hmm. Et différentes archives scrutées par Mme Paulin sont évocatrices de la nature des relations entre les résidents et les chevaux en montrant qui avait droit à quel espace dans le paysage urbain. Ainsi, des cartes topographiques de compagnies d'assurance incendie et divers règlements indiquent qu'on a graduellement éloigné les postes de cochers et leurs chevaux de trait du Mont-Royal, où ils n'avaient d'ailleurs pas le droit de flâner. Le cocher, son cheval et son véhicule étaient considérés comme un tout à réglementer, précise Mme Paulin. On tolérait qu'ils circulent, mais pas qu'ils soient arrêtés, quelle liaison, afin de ne pas nuire à la quiétude et aux activités de loisirs des bourgeois et de l'élite qui fréquentaient le Mont-Royal ou qui y vivaient, principalement aux abords de l'Université McGill.
Ah, ben oui.
De même, des plaintes adressées aux services de police ont contribué à faire déplacer les postes de cocher à plusieurs reprises, toujours plus loin du Mont-Royal et à restreindre le nombre de cochers qu'un poste pouvait accueillir en même temps. La diversité des archives consultées par Mme Paulin est centrale dans cette recherche car ensemble, elles témoignent de dynamiques historiques, spatiales et relationnelles entre les habitants et les chevaux qui étaient jusqu'ici peu connues pour Montréal. Elle dénote une vision moins anthropocentrique de l'histoire de Montréal à cette époque et montre que les transformations que la ville a subies au fil du temps, réglementation, architecture, aménagement des rues, ne sont pas attribuables seulement à l'humain, mais aussi aux animaux. Et selon elle, ces relations d'autrefois sont le miroir de la dichotomie dans les relations d'aujourd'hui entre les citadins et les animaux urbains. Comme en fait foi les débats entourant les petits chiens ou gros chiens méchants, pour ne pas les nommer, les pitbulls, et la présence des calèches dans le vieux Montréal.
Voilà.
Alors, on s'est projeté dans le passé pour
comprendre le
présent. Alors, c'était un article pour le journal Forum de Martin Lassalle du 4 avril 2018.
Fort intéressant. Yvan, on parle de Bixi maintenant, on change de moyen de transport.
Oui, c'est ça, c'est une évolution.
Mm-hmm. C'est deux roues et pas quatre pattes.
C'est ça, ça sent moins.
Oui.
Du moins de la part du cheval. Enfin, c'est un article que j'ai trouvé dans Vélomag hors série. À tous les ans maintenant, Vélomag sort un numéro hors série, Ville à vélo. Et c'est le numéro de printemps-été 2018 sous la plume de Stéphane Desjardins qui nous présente Luc Sabatini. Et le nom de l'article, c'est Biximat. Changer le monde, une ville à la fois, c'est le rêve de Luc Sabatini. Il en a fait le slogan de son entreprise, PBSC Solutions Urbaines, une PME de Longueuil qui a récupéré en 2014 les activités internationales issues de la faillite de la société de vélos en libre-service. Ça, c'est la partie de Bixi qui a fait faillite. L'ex-président d'Astral Affichage se cherchait une occasion de concrétiser une deuxième carrière d'entrepreneur après qu'Astral eût été avalé par Bell en 2013. Je venais de pédaler à Londres sur un Bixi en compagnie de ma famille sans savoir que ce serait ma destinée. En 2015, il achète une PBSC, c'est Public Bike System Company, donc la compagnie des systèmes de vélo public, qui était très mal en point. La première année, je n'ai pas beaucoup dormi. Aujourd'hui, c'est le leader mondial du vélo en libre-service avec 65 000 unités dans 30 villes. Ses quatre concurrents, les Américaines Bicycle et Sobi, et l'Allemande Netbike et la Française Smooth, drôle de nom pour une compagnie française, enfin, revendiquent ensemble 50 000 unités. Donc, les quatre concurrents ensemble, c'est 50 000, puis PBSC, c'est 65 000.
Quand même.
Et PBSC creusera encore davantage l'écart dans les prochains mois en répartissant 10 000 vélos dans 10 nouvelles villes.
Wow, bravo!
À l'arrivée de Luc Sabatini, PBSC comptait 15 employés. Ils sont désormais 60, dont une dizaine d'ingénieurs dans des locaux qui s'apparentent à ceux d'un dot-com, rempli de bidules électroniques et de prototypes et d'écrans. En 3 ans, PBSC a dépensé 6 millions de dollars en recherche et développement, dont beaucoup dans la refonte de l'infrastructure informatique, dans une application transactionnelle et dans de nouveaux modèles de vélo. Luc Sabatini se sent privilégié. Je vends du bonheur. Je propose un produit idéal alors que les villes cherchent à améliorer la mobilité et luttent contre le smog. Nous évoluons dans l'économie du partage. Nous offrons la liberté pour 90 $ par année. Pas besoin de grimper son vélo dans l'appartement ou de trouver poteau ou le verrouiller. Et les jeunes urbains ne veulent pas acheter, mais louer. Le vélo en libre-service représente une petite part du cocktail de transport, mais pour une ville, c'est une aubaine. Pour le prix d'un seul bus articulé, vous avez 1000 vélos robustes et sécuritaires. Le Bixi, c'est la Mercedes des vélos en libre-service. Il a coûté 25 millions de dollars à développer. C'est un héritage extraordinaire. Quand nos compétiteurs en ont dépensé 3, c'est beau. PBSC fournit des vélos garantis durée 10 ans et ses stations alimentées au solaire se déplacent en 20 minutes, des arguments de vente imparables. Il tire une grande fierté de ses nouvelles selles pourvues d'un canal central qui évacue rapidement la pluie, de ses novatrices poignées antibactériennes, de ses garde-boue en plastique léger, de ses stations qui résistent à un ouragan de force 2 et son modèle, Fit, le plus petit, qui fait un malheur à Honolulu et dans 3 villes du Brésil. Il s'enorgueillit également du Boost. C'est un Bixi assisté à l'électricité, dont la batterie se recharge par le dispositif de verrouillage. La pile est insérée dans le tube avant du cadre et l'assistance vient du moteur situé dans la roue arrière. Les villes à la topographie accidentée, comme Rio, apprécient. Ailleurs, la clientèle pédale en costard sans transpirer. Une bonne part des revenus viennent de la vente de pièces de rechange et surtout de l'informatique. La gestion de tous les systèmes et des applications passe par l'info nuagique de PBSC sur ses serveurs Amazon. Ainsi, PBSC gère elle-même le service pour certaines villes clientes. Les Montréalais ne réalisent pas à quel point ils sont chanceux, ajoute-t-il. Bixi Montréal, ça c'est l'OSBL qui administre le réseau montréalais, fait partie de l'élite mondiale. Il assure un service incroyable. Ailleurs, souvent, les stations ne marchent pas, rejettent les cartes de crédit étrangères, les vélos ne sont pas disponibles ou dans un piteux état. Ici, c'est très rare que ça cloche. J'ai utilisé tous les systèmes dans le monde, je peux donc comparer. Bel job, ça.
Ben oui, hein?
Luc Sabatinier est apte à livrer un service de 7000 unités en quelques mois, une capacité hors de portée de ses compétiteurs, sauf les Chinois. Leurs usagers laissent traîner leur vélo bas de gamme sans borne de réception. En Chine, il n'y a pas de borne de réception, Puis c'est une puce qu'il y a dans le vélo qui permet de savoir où est-ce qu'il est. Alors, ils laissent le vélo traîner partout.
N'importe où.
Ouais. Je verrais mal leur système s'implanter en Occident où tout est ordonné. Les autorités ne toléreraient pas des tas de vélos devant les tours de bureaux ou les stations de métro comme on le voit en Asie. La revue britannique hyperbranchée Monocle ou Monocle lui a consacré deux pages. Une première pour un patron d'entreprise canadienne. On y lit qu'il fréquente le Café Italia, qu'il commande ses enceintes sono à l'aide de son iPhone et qu'il parle l'italien appris de ses parents. Alors, c'est probablement Luc Sabatini qui a grandi à Hunsick et est parfaitement heureux de son statut de Big C-Man mondial.
Hey, ça peut être intéressant, on l'applaudit. Non?
Oui.
Alors, c'était Luc Sabatini, puis je m'aperçois qu'il y a peut-être une erreur dans mon titre. Luc Sabatini, ça doit être Big C-Man et non pas Big C-Ma, de la plume de Stéphane Desjardins dans le Vélomag hors série Ville à vélo, printemps-été 2018.
Grand merci.
Enfants, faites un effort, c'est votre papa qui s'endort. Arrêtez de courir, non, ça ne me fait plus rire. Ne me faites pas mourir de ma belle mort. Demain je dois travailler, j'ai votre vie à gagner. Oh, petits enfants, fermez vos petits yeux, serrez vos petits poings jusqu'à demain, dormez. Allez. Oh, 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 petits enfants, soyez gentils pour votre papa qui vieillit. Il est sorti hier soir et est rentré trop tard. Il ne veut que revoir son grand lit. Il vous aime, croyez-moi, surtout quand vous êtes en pyjama. Demain soir, c'est promis, nous jouerons jusqu'à minuit. Je ferai le train, le cheval et le chien. Allez, dormez. Faites un effort, c'est votre papa qui s'endort.
Et oui, Michel Rivard et sa chanson « Oh, petits enfants ».
Qu'on aime bien, qui est vraiment de circonstance avec le texte qui s'en vient, dont le titre est « Il y a un problème au pays des garderies ». Ou « Pourquoi tant de garderies privées à plein tarif sont-elles de qualité minimale ?» ou franchement inadéquate. Ah. C'est un texte de Pierre Fortin, qui est économiste oui. et qui écrit dans l'actualité. Excusez-moi. Voilà. Le 19 avril. Le régime de service de garde à l'enfance du Québec offre présentement 300 000 places pour nos enfants de 0 à 4 ans. Et là, il y a une série de chiffres. Là. Alors, mettez votre cerveau en mode calcul. Environ 234 000 sont à tarif réduit. Il y en a 95 000 dans les centres de la petite enfance ou les CPE, qui sont des établissements privés à but non lucratif. Il y en a 92 000 en milieu familial dans des résidences privées et 47 000 dans les garderies privées qui acceptent de se conformer à des normes précises. Une subvention directe du gouvernement du Québec couvre en moyenne 80 % du coût total de fonctionnement de ces services de garde. L'autre 20 % est tiré du tarif réduit de 8 $ et 5 sous. Ça varie, ça part à 8 $ et 5 sous et ça peut aller jusqu'à 21 $ 95 sous par enfant par jour qui est perçu auprès des parents et qui est modulé selon le revenu d'emploi de la famille. Les 66 000 autres places sur les 300 000 sont offertes par des garderies privées à plein tarif. On les désigne souvent comme des garderies privées non subventionnées, mais c'est une appellation impropre parce qu'elles sont en fait subventionnées par le crédit d'impôt remboursable que le fisc accorde aux parents pour les aider à payer ce tarif. Notre système de garde offre donc un éventail d'options aux parents. CPE, milieu familial, garderie privée à tarif réduit ou garderie privée à plein tarif. Cette liberté de choix reçoit un appui sincère et enthousiaste de plusieurs élus. Par exemple, dernièrement, le ministre de la Famille, Luc Fortin, affirmait avec conviction que les parents sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour leurs enfants. La liberté de choix, parce que c'est de ça qu'on parle ici, est un principe fondamental dont il ne faut pas déroger à moins d'avoir une raison valable. Avant toute chose, il faut être correctement informé sur la nature des options offertes. Les parents voudront naturellement opter pour le service de garde qui offrira les meilleurs soins à leur enfant. Mais encore faut-il qu'ils soient capables de décider en toute connaissance de cause. Et c'est le but donc de cet article de clarifier ça. Or, en toute objectivité, les divers types de services disponibles ne sont pas tous égaux au plan de la qualité. Comme le démontre un graphique, que vous ne voyez pas évidemment,
même nous,
tiré d'une enquête de l'Institut de la statistique du Québec, un enfant en CPE a 11 fois plus de chances de recevoir des soins de bonne qualité ou d'excellente qualité que de qualité inadéquate, donc en CPE, 11 fois plus de chances. L'impact favorable de la qualité CPE sur le développement des enfants a d'ailleurs été confirmé par plusieurs travaux scientifiques publiés au Québec ou à l'étranger dans plusieurs revues. Et ce n'est pas du tout le cas pour le développement des enfants en garderie privée à plein tarif. Comme le rapporte le même graphique, un enfant dans une garderie de ce type a 3,5 fois plus de chances de recevoir des soins inadéquats que de bonne qualité. Un rapport du ministère de la Famille est révélateur du grand écart de qualité entre les CPE et les garderies privées à plein tarif sous un angle précis. Il souligne que 89 % des CPE sont conformes au règlement voulant que les deux tiers des éducatrices soient qualifiées, mais que seulement 16 % des garderies privées à plein tarif se conforment à ce règlement. Ça, c'est assez troublant.
Ouais.
À la lecture de ces résultats contrastants, on pourrait croire que les parents opteraient massivement pour le CPE plutôt que pour la garderie privée à plein tarif. Plusieurs confrères économistes ont exprimé l'avis optimiste que la concurrence allait forcer les garderies de qualité inadéquate à fermer leurs portes parce que les parents les abandonneraient. Dans le cas présent, malgré une qualité moyenne vérifiée qui laisse grandement à désirer, les garderies privées à plein tarif se sont multipliées rapidement à partir du moment en janvier 2009 où le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde du Québec les a rendus concurrentiels avec les CPE et autres garderies à tarif réduit. Il y avait 6 000 places dans les garderies à plein tarif en 2008. Il y en a 66 000 aujourd'hui, en 2018, 10 ans plus tard.
Oui.
Voilà. Comment expliquer une telle explosion de la fréquentation des garderies à plein tarif, dont la qualité moyenne laisse pourtant tellement à désirer? Premièrement, l'information sur la qualité ne circule pas bien. Plusieurs parents ne sont pas au courant du très grand écart de qualité entre les CPE et les garderies privées à plein tarif et des conséquences vérifiées par les travaux scientifiques. Deuxièmement, alors que le nombre de places a augmenté de 60 000 dans les garderies privées à plein tarif depuis 10 ans, il n'a progressé que de 18 000 dans les CPE. L'offre de places dans les CPE est encore incapable de répondre adéquatement à la demande. Pour les parents qui le désirent, décrocher une place en CPE, c'est comme réussir à s'asseoir sur une chaise dans un jeu de chaises musicales. Les malchanceux sont refoulés dans les autres types de services, dont les garderies à plein tarif. Troisièmement, la bonne décision d'acheter ou non est beaucoup plus difficile à prendre lorsque le service envisagé est immatériel et que son impact est éloigné dans le temps. Décider d'acheter des services de garde à l'enfance, ce n'est pas la même chose que d'opter pour une marque ou l'autre de choux de Bruxelles congelés qu'on a eu le temps de tester à fond. Même lorsque les parents sont parfaitement conscients de l'importance de la qualité des services de garde pour le développement de leur enfant, la nature de tel ou tel service et son impact précis à long terme ne deviendront souvent concrètement observables que plus tard, par exemple après que l'enfant sera entré à l'école. Il est souvent difficile pour les parents d'apprécier correctement l'avantage réel que détient le CPE sur la garderie à plein tarif en matière de qualité et de bien mesurer ses conséquences éloignées dans le temps sur le développement de leur enfant. Alors, je m'interromps ici dans la lecture de cet article de Pierre Fortin, mais je vais poursuivre après la pause. La suite, donc, des raisons qui poussent les parents à choisir une garderie à plein tarif et autres faits éclairants qui dressent un portrait de la situation des garderies.
Ouais.
Voilà, ouais, voici Yvan, c'est à toi.
Ah, oh, c'est moi.
Oui, c'est à toi.
Alors, c'est une suite de l'article que je vous lisais sur les Bixi dans le reste du monde. Mais ça, c'est un peu cocasse. Ça a l'air qu'on a trouvé un Bixi en Afrique. Il y a eu des photos. Il y a eu en Afrique du Nord, oui, c'est ça. On a trouvé des photos. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. C'est un peu particulier. On n'a aucune idée comment un Bixi a pu se rendre là. À vous, Henri Canan, Pierre Parent, directeur du marketing de Bixi Montréal. C'est dans la ville de Rabat, au Maroc. Sachez que seulement 0,1% des Bixi disparaissent. C'est assez rare qu'on voit ça, et encore plus rare qu'on les retrouve au Maroc. M. Parent mentionne aussi que le Bixi sur la photo est un vieux modèle datant d'au moins 4 ans. Et pour l'instant, aucune personne n'a pu confirmer s'il s'agissait d'un photomontage ou non. Il semble que la personne qui l'a acheté l'aurait acheté dans une brocante à Rabat.
Puis et arabais.
Puis moi, j'ai rajouté, c'est ça, arabais.
Est-ce qu'on a le temps, non? Oui.
C'est en nom de Marie.
Voilà. Oui, oui, on a le temps. Alors, une bonne nouvelle. Quand on parle d'environnement, c'est toujours négatif. Mais là, on a vu le trou dans la couche d'ozone se reboucher. Cette fois, les scientifiques en ont apporté la preuve. Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique s'est réduit très exactement de 20%. D'après les mesures satellitaires de la NASA, il devrait continuer à diminuer jusqu'en 2060, à mesure que les gaz CFC, qui ne sont plus produits depuis 1994, disparaîtront de l'atmosphère.
Ça, c'est pas des fake news.
Non, c'est non, pas des
faits avérés. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Après la pause, on vous parle de garderie, la suite de changement climatique et d'autres articles intéressants tirés de la revue.
Moi, les Pinières et Motricité Québec.
Voilà, merci.
Je joue le rôle. Je joue le jeu. C'est pas les mêmes règles pour eux. Je me résigne à ne pas gagner parce que les choses ont bien changé. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Je me sens comme ci, comme ça, même souvent. Je t'explique, souffrir comme ça, c'est bien classique. Je le fais pour moi. Je peux penser comme un homme, boire comme un homme, droguer comme un homme, mais quand tout feu le camp.
qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire.
Une femme doit faire, Jill Barber.
Merci, Mathieu.
Plaisir.
Alors donc, la suite de ce texte de Pierre Fortin, « Il y a un problème au pays des garderies ». Donc, on était dans les raisons qui poussent les parents à choisir une garderie à plein tarif. D'abord, il y avait le manque d'informations, ensuite le manque de place en CPE, ensuite la difficulté de faire un choix sans tenir compte des conséquences à plus long terme. Quatrièmement, donc dans ces raisons, un grand nombre de parents ont de lourdes obligations financières à honorer, souvent en lien avec leur dette hypothécaire ou de consommation. Ils ne se considèrent donc pas capables de payer les 10 ou 15 $ de plus par jour par enfant que leur coûterait une garderie à plein tarif de meilleure qualité. Et finalement, la proximité de la garderie compte pour beaucoup dans le choix des parents. On va souvent se contenter d'une garderie à plein tarif proche du foyer familial à une autre qu'on sait de meilleure qualité, CPE ou autre, mais qui est installée beaucoup plus loin. C'est pourquoi le régime actuel de concurrence entre CPE et garderies privées à plein tarif n'arrive pas à éliminer les garderies à plein tarif qui ne sont pas bonnes pour le développement de nos enfants. Le marché des services de garde est défaillant. Les propriétaires de garderies à plein tarif eux-mêmes ne sont pas responsables de la situation. La plupart sont des entrepreneurs de bonne foi. Ils gèrent du mieux qu'ils peuvent le système réglementaire et les contraintes financières que le régime gouvernemental leur impose. Ça donne ce que ça donne. Alors, pourquoi le gouvernement du Québec ne corrige-t-il pas ce régime? Et c'est Pierre Fortin qui pose la question. La réponse à cette question est qu'il fait faire de l'argent au ministre des Finances. Si mon enfant fréquente un CPE, le ministre doit verser environ 60 $ par jour en subvention directe à l'installation. La qualité a un prix. Mais si mon enfant fréquente plutôt une garderie à plein tarif de 40 $ par jour et que j'ai un revenu d'emploi familial de classe moyenne de 90 000 $, le ministre va me verser un crédit d'impôt de 22 $. En d'autres mots, mon choix de garderie à plein tarif plutôt que de CPE, permettra au gouvernement d'économiser 38 $, c'est-à-dire 60 moins 22. Il lui fera faire de l'argent. C'est un gain pour le ministre des Finances, mais une perte pour le développement de mon enfant, qui tombera sur une garderie à plein tarif de qualité inadéquate, 7 fois sur 20, faut-il le rappeler. L'incitation financière est perverse. Le ministre n'a aucune envie de changer le système pour rendre la garderie à plein tarif moins attrayante ou de meilleure qualité. Il n'y a rien de surprenant ici. Il était parfaitement clair en 2009 qu'on bonifiait le crédit d'impôt pour les garderies privées à plein tarif, précisément pour que le régime des services de garde coûte moins cher au gouvernement. Ce qu'il faut en déduire, c'est que l'économie du gouvernement s'est faite au détriment de la qualité des services de garde. Ce sont nos enfants qui en paient le prix. Il n'y a pas 36 solutions au problème. D'une part, il faut accélérer la création de CPE afin que le nombre de places offertes par ce type de service de haute qualité, moyenne, réponde enfin adéquatement à la demande des parents. D'autre part, si on veut maintenir nos garderies privées à plein tarif comme composante de notre système de garde à l'enfance, il faut leur imposer des normes de qualité aussi rigoureuses qu'au CPE et s'assurer qu'elles seront respectées, comme pour les CPE. Bien évidemment, il faudra alors accroître le crédit d'impôt pour frais de garde afin que ces garderies à plein tarif de meilleure qualité, forcément plus chères, demeurent concurrentielles avec les CPE. Investir plus judicieusement dans l'avenir de nos petits-enfants ne serait-il pas la meilleure utilisation possible de nos surplus budgétaires actuels? Et c'est ainsi que Pierre Fortin termine son article qui était publié dans le magazine L'Actualité le 19 avril dernier. Alors, M. Deslauriers, deux articles maintenant que vous allez nous lire.
Oui. Un que j'ai trouvé dans le numéro « Été 2017 ». Ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça quand même, du magazine « Moi, l'épinière et motricité Québec ».
Quand c'est tout à fait pertinent.
Oui. Puis il va y avoir une suite, là, si on se rend jusqu'au bref, je vais vous en parler. « Accès sommet 2017, un défi relevé avec solidarité dans l'adversité ». C'est un texte écrit par un monsieur Christian Séguin. C'est sous un soleil radieux que les 13 aventuriers du défi Accès Sommet 2017, dont un adolescent de 13 ans, ont entamé leur périple en montagne en début d'après-midi le 30 juin. Premier objectif, le sommet du Mont Adams, le deuxième plus élevé de la chaîne présidentielle des montagnes blanches du New Hampshire après celui du Mont Washington, l'objectif suprême de ce défi qui pointe à 6288 pieds. Oui, c'est haut, hein? Quelques 5 heures d'ascension plus tard, une première étape était relevée alors que la troupe atteignait le refuge Grey Knob aux 2/3 de la montagne pour le souper et la nuit. Le lendemain, le soleil était encore au rendez-vous et c'est sous ses rayons que la bande a conquis le mont Adams en avant-midi. Au fur et à mesure que la journée progressait, toutefois, le microclimat des montagnes blanches s'est mis à faire des siennes jusqu'à devenir franchement hostile en après-midi. Le ciel s'est couvert, la température a chuté, le vent s'est levé et la pluie s'est invitée à grands sauts.
Mmh. Je pensais que tu allais dire la neige.
Ça aurait pu.
Mais on était au mois de juin.
Ça aurait pu. Ouais. Au Mont Washington, tout se peut.
Mmh. Oui.
La météo n'était plus notre amie, relate Marjorie Obonsawin, l'instigatrice du défi. Il ventait tellement qu'il pleuvait à l'horizontale. On a dû contourner les sommets des monts Clay et Jefferson qu'on avait prévu fouler, car les roches sur lesquelles on devait marcher étaient tellement glissantes et ça nous ralentissait. Il fallait avancer accroupi pour éviter que les rafales nous fassent perdre pied. Il faisait froid, c'était dangereux et on ne voulait pas risquer que la nuit tombe avant notre arrivée au sommet. On était très contents d'avoir des marcheurs expérimentés avec nous. Sans eux, on aurait été en difficulté. On était bien préparés et accompagnés, et ça nous a servi. Cette fin d'ascension ardue nous a recentrés sur la raison pour laquelle on marchait. On s'est motivés à aller jusqu'au bout en pensant à toutes les personnes en situation de handicap pour qui marcher n'est pas possible et se déplacer souvent un défi. Après 10 heures d'ascension, dont plusieurs dans l'adversité, la bande a finalement atteint le sommet du Mont Washington, où même la prise de photos témoin a été un défi à cause des conditions météorologiques. On a une petite photo, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Les aventuriers épuisés, mais forts d'une solidarité qui n'a jamais cessé de croître tout le long de l'ascension, pouvaient enfin dire « mission accomplie ». Et 2 fois plutôt qu'une, puisque la bande a amassé la rondelette somme de 9 218 $ pour la fondation Moi, l'épinière et Motricité Québec, dépassant largement son objectif de 6 000 $ au départ.
Bravo à eux!
Et je suis cet article avec un deuxième qui a été tiré de la revue de hiver 2018, toujours de Moi, l'épinière et Motricité Québec. Ça s'appelle Paraquad. L'article s'appelle « Une panoplie d'activités possibles » et ça a été écrit par le monsieur qui vit ces activités-là. Il s'appelle Dominique Gay, monsieur qui a l'air d'être dans la quarantaine, près de la cinquantaine. « J'habite à Sainte-Marie, dans la région de Chaudière-Appalaches. Suite à un accident de moto survenu il y a près de 3 ans, je suis devenu paraplégique, ce qui bouleversa ma vie. L'auto enneigée, les trottoirs et les stationnements mal dégagés, etc. L'hiver qui a frappé à notre porte nous amène à gérer nos sorties selon les soubresauts de Mère Nature. Mais cela ne doit pas nous faire hiberner jusqu'au printemps, même si le printemps tarde un petit peu, comme certains animaux. Il est important de garder le contact avec nos proches, notre morale en a besoin. Pour ma part, quand il fait très froid, mais qu'il y a un beau soleil, j'évite de sortir et je m'installe près de ma grande fenêtre pour me faire dorer la couenne, comme on dit par chez nous. Mais quand la température est plus clémente, je trouve toutes sortes de raisons de sortir de la maison. La famille et un bon réseau d'amis aident beaucoup dans ce cas. Pour lui, l'hiver est une saison pour faire des sports et diverses activités. Puis, attachez-vous bien après votre chaise. Tant intérieur qu'extérieur. Il pense entre autres au ski alpin et au ski de fond adapté. On retrouve dans sa région plusieurs pistes de ski de fond qui sont peu vallonnées, voire même planes, comme à Saint-Lambert, à Saint-Étienne, à Saint-Rédempteur, à Saint-Romuald, ce qui facilite la pratique. À Saint-Henri, le club de ski de fond a aussi installé une rampe d'accès pour le chalet. On peut aussi pratiquer le volleyball adapté à Brakeville et à Saint-Georges, le hockey luge à Saint-Victor ou la power chair à Lévis pour les gens se déplaçant en fauteuil motorisé.
La power chair.
Oui, je ne sais pas si c'est comme une course de voiture avec des... Je ne sais pas du tout. Pour le curling adapté, je me rends à Québec. Le curling adapté a été pratiqué pendant plusieurs années à Saint-Romuald, mais faute de participants, cette activité a cessé. Il y a aussi dans Chaudière-Appalaches plusieurs piscines où la pratique de la natation se fait plus facilement pour une personne à mobilité réduite. Elle dispose de l'équipement nécessaire pour un accès facile et sécuritaire à l'eau. Les lieux sont accessibles et les toilettes adaptées. À Lévis, à Beauceville, à Saint-Georges et à Montmagny, on retrouve des piscines munies d'un lève-personne. Certaines piscines possèdent aussi des escaliers avec rampe pour les personnes lésées médulaires capables de marcher. Pour moi, c'est vital de me garder en forme physiquement et socialement tout au long des saisons. Vous comprendrez qu'avec ce grand nombre d'activités, je ne les ai pas toutes essayées, mais j'ai quand même opté pour le curling et le volleyball. Mmh. Moi, je suis un joueur de volleyball, puis je suis assez impressionné.
Mmh.
Comme je possède un véhicule, je n'ai pas à attendre pour le transport adapté. Ce qui compte dans ma vie, c'est d'être entouré de gens agréables à côtoyer pour échanger, se confier et surtout rire. Car oui, il y a encore du plaisir à avoir, même après un grand bouleversement comme celui que j'ai vécu. C'était l'article « Une panoplie d'activités possibles » par M. Dominique Gay, qui était dans la revue Paraquad d'hiver 2018.
Merci, Yvan. Alors, Monique, on parle de changement climatique.
Ben, en fait, on recule dans le temps. Il y a 40 000 ans.
Oh, quand même.
Quand même.
On n'était pas là, personne.
Hein? Au 19e siècle, 40 000 ans.
Oui, voilà. C'est ça.
On fait dans le passé ce matin.
On fait dans le passé.
On s'éloigne des Bixies, là.
On s'éloigne totalement des Bixies. L'article s'intitule « Survivre au changement climatique, jadis et maintenant ». Et c'est la salle de presse sous la plume de Jeff Henrich de U2M Nouvelles du 13 avril 2018. Alors, les liens commerciaux et sociaux ont aidé nos ancêtres Homo sapiens à survivre à une éruption volcanique qui a changé le climat il y a 40 000 ans. Cela nous donne espoir que nous pourrons surmonter le réchauffement climatique si nous restons en relation les uns avec les autres, indique une étude parue récemment dans la revue The Journal of Quaternary Science. On va envoyer ça à monsieur du Sud.
OK. Il faut rester en relation.
Oui.
OK.
Oui. En analysant d'anciens outils et ornements préhistoriques provenant de l'abri Bombrini en Ligurie, sur la Riviera Ligure, des archéologues de l'Université de Montréal et de l'Université de Gênes ont conclu que la clé pour demeurer en vie était la coopération.
Mmh.
C'est en Ligurie que certains des premiers Homo sapiens, qui sont plus ou moins nos ancêtres directs, ont vécu en Europe, dit Julien Riel Salvatore, professeur au département d'anthropologie de l'UdeM, qui a rédigé l'étude avec son collègue italien Fabio Negrino. Ils descendaient des Néandertaliens, mais contrairement à eux, ils ont été confrontés à de brusques changements climatiques. Ils ne se sont pas éteints localement et n'ont pas abandonné leur territoire. Ils se sont adaptés. Les Homo sapiens vivaient dans cette région depuis plus de 1000 ans, quand une super éruption s'est produite dans les champs Flégréen, de l'Italie du Sud, à l'ouest de la ville actuelle de Naples, et a dévasté la majorité de l'Europe. On a longtemps cru que cette catastrophe avait décimé la plupart des premiers Homo sapiens du continent. Or, nous avons pu démontrer que certains d'entre eux ont réussi à surmonter la situation et à survivre en gérant l'incertitude liée à ces changements soudains. Au cœur de leurs travaux, les archéologues ont recueilli des fragments d'outils, comme des lamelles, ce sont de petits éclats de grosses pierres qui servaient de barbelures et de lames pour les armes de chasse, qui prouvent l'ingéniosité de nos premiers ancêtres. Certains des silex utilisés par les Homo sapiens provenaient de sites situés à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui prouve qu'ils disposaient d'un réseau social et commercial très étendu qui les a aidés à subsister pendant les 4000 années suivantes. Ils avaient tissé des relations avec des peuples qui vivaient loin d'eux, de sorte que, quand les choses ont mal tourné dans leur région, ils ont pu trouver des ressources auprès des gens avec qui ils entretenaient des liens sociaux. Plus leur réseau était vaste, plus il leur était facile d'assurer leur existence, explique M. Riel Salvatore. Entre autres preuves de la présence des Homo sapiens sur le site, l'archéologue a aussi découvert une dent d'enfant et des ornements en coquillage et en pierre tendre. Cette étude fait écho à d'autres révisions concernant les effets d'une super-éruption préhistorique encore plus ancienne, celle du volcan Toba, qui a eu lieu dans l'île indonésienne de Sumatra il y a 74 000 ans. Compte tenu de ces récentes découvertes, la théorie selon laquelle cette éruption aurait presque décimé l'humanité entière, elle est désormais remise en question. Dans les deux cas, l'archéologie montre que l'évolution n'est pas toujours aussi destructrice qu'on le croit. Il semble y avoir un schéma selon lequel les humains s'adaptent plus facilement et sont plus résilients quand ils font face à ce genre d'événements extrêmement perturbateurs. Ces événements peuvent être très dévastateurs, mais de façon limitée, pas à l'échelle de plusieurs continents ni du monde entier. Le chercheur poursuit, on extrapole un peu quand on dit que ce qui s'est passé il y a des dizaines de milliers d'années peut nous aider à prédire comment les humains généreront les changements, géreront les changements climatiques actuels. Mais le passé nous permet effectivement de comprendre comment nous gérons les changements climatiques de façon continue. Selon lui, cela montre à quel point l'archéologie est utile pour nous, pour nous en apprendre davantage sur les problèmes immédiats auxquels nous sommes confrontés. La coopération et la solidité des réseaux sociaux ont été essentielles pour aider les gens à surmonter les effets dévastateurs du changement climatique dans le passé. Et compte tenu de certains défis que nous devons relever aujourd'hui et de certaines positions arrêtées auxquelles nous nous heurtons, peut-être faut-il communiquer cette notion voulant que la coopération est indispensable à la survie. C'est une leçon à tirer. Les chercheurs ont collecté la plupart des données de l'étude de 2002 à 2005 sur le site de l'abri Bombrini, qui fait partie du complexe archéologique des grottes des Balzi Rossi, datant du paléolithique.
Oui.
J'ai levé ma tête, excusez-moi, j'aurais pas dû. Ces grottes ont été sondées pour la première fois en 1938 et des fouilles y ont été entreprises dès 1976. Et au cours des trois prochaines années, M. Julien Riel Salvatore et M. Fabio Negrino continueront d'effectuer des fouilles sur le site pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les Néandertaliens ont disparu et ont été remplacés par les Homo sapiens, qui étaient mieux outillés qu'eux et dont les réseaux étaient plus étendus. C'était donc un article de la salle de presse de UDM Nouvelles du 13 avril 2018.
Donc, mais réseautons.
Réseautons,
oui,
voilà.
C'est intéressant de parler de réseau social il y a 40 000 ans.
Oui, oui, à l'ère des médias sociaux maintenant, oui, qui apportent des effets positifs, mais aussi très négatifs. Mm-hmm.
je parlais de chiffres tantôt, je vais parler de mots maintenant. Plus de 40 000 mots d'encouragement pour les élèves. J'ai trouvé ça sur le site du journal lecourant.ca le 20 avril.
40 000, là, c'est un chiffre important.
Oui, je le sais, mais on parle de mots. La 8e édition du projet « J'aime ça, tu m'encourages » aura fracassé ses propres records avec la remise de plus de 40 000 messages d'encouragement aux quelques 4 000 élèves de la commission scolaire Pierre Neveu. Du 12 février au 16 mars, parents, amis, enseignants, entraîneurs et toutes les connaissances d'étudiants étaient invités à écrire un message axé sur la persévérance scolaire à des élèves de leur entourage. Une fois de plus, la communauté des Hautes-Laurentides a démontré son soutien en se mobilisant pour accomplir la mission du comité Action Persévérance, c'est-à-dire accroître la persévérance scolaire, la réussite éducative, la diplomation et la qualification de nos jeunes. Les impacts de ces mots ne sont plus approuvés. Les encouragements augmentent considérablement les sentiments positifs liés aux facteurs de protection de la persévérance scolaire. On parle de motivation, d'estime de soi, de confiance, de fierté, etc. Chez les jeunes, en plus de créer des réflexes chez les individus, à encourager les élèves de leur entourage au quotidien. Depuis la première édition du projet en 2011, près de 200 000 mots d'encouragement ont été remis. Alors, je trouve ça formidable. Je trouvais que c'était une bonne nouvelle et je la diffuse.
Merci, Marie. Yvan?
Pour faire suite à mon article Accès Sommet 2017, un autre article qui fait la suite... L'hiver n'est certainement pas symbole de repos pour l'équipe d'Accès Sommet. J'espère que là, l'hiver étant passé, ça va un petit peu mieux. En effet, le sondage qui a été fait auprès des participants de la première édition, celle dont je vous ai parlé, a permis de cibler les prochains objectifs. Une expérience enrichissante et le dépassement de soi seront plus que jamais au rendez-vous pour la deuxième édition du défi de la traversée de la chaîne présidentielle des Montagnes Blanches du New Hampshire. D'ailleurs, les dates ont déjà été arrêtées pour le prochain départ et c'est bientôt, c'est du 25 au 28 mai 2018 que la prochaine équipe de randonneurs s'aventurera sur les chemins rocailleux de la chaîne présidentielle. Une partie des participants de la première édition ont déjà confirmé leur présence pour la deuxième. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, n'hésitez pas à communiquer avec Moi Lépinière et Motricité Québec. Si vous êtes intéressé à joindre l'équipe, cette année, ce sont deux nuits en refuge qui sont prévues. Ainsi, on pourra sillonner davantage cette magnifique chaîne de montagne. Et évidemment, le défi se veut un porteur de dépassement de soi, mais surtout, c'est l'élément motivateur, c'est la levée de fonds au profit de Fondation Moi Lépinière et Motricité Québec. Alors, il y a un site Internet, puis il y a une adresse courriel. L'adresse courriel, c'est accessommet@commercial.gmail.com. Et ils sont sur Facebook sous le titre « Accès Sommet 2017 ».
On les encourage. Merci, Yvan.
Monique. Alors, moi, je vous amène dans l'eau.
Oui.
Océanologie. Dans certains récifs coralliens, la présence des requins peut être bénéfique au développement des algues. Vous vous demandez certainement pourquoi.
Tout à fait.
Pas vraiment, non.
Eh bien, c'est parce qu'ils effraient les petits poissons herbivores.
Comme nous.
Alors, à marée haute, c'est-à-dire quand les requins sont entrés, les herbivores évitent de se nourrir dans ces lieux pourtant 20 fois plus riches en algues que les scientifiques ont baptisé « hot spots de peur ». Ah, on n'ira pas.
Non, on n'ira pas. Non plus. Alors, saviez-vous que le site RIRE, le Réseau d'information pour la réussite éducative, RIRE, a publié le 23 avril dernier un dossier thématique qui s'appelle « Le mystérieux univers de l'autisme ». Alors, on y trouve, au-delà des définitions, les caractéristiques du TSA, des articles qui ont été compilés sur le site RIRE, des recherches, des documents multimédia et d'autres articles intéressants, ainsi que des liens utiles. Alors, je ne peux que vous encourager à aller chercher ce dossier-là pour vous informer davantage. Voilà.
fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Myriam Binette. C'est celle qui nous produisait la météo urbaine. Mais je pense qu'elle a arrêté. Mais elle a fait une petite publication lundi avec une photographie prise d'en dessous d'un arbre. On voit les bourgeons qui commencent à ouvrir. C'est écrit « Flou de bourgeons de lilas, réalité d'un ciel de lumière. Là, c'est vrai, l'hiver a reçu sa lettre de congédiement. » C'est presque une météo urbaine, ça.
Est-ce qu'on a le temps pour un mot d'enfant? Oui, des dolmens, selon Marie-Éléonore, qui a 8 ans et demi. À l'époque, c'était des espèces d'arrêts de bus plantés tous les 100 mètres.
J'aurais voulu voir le bus, moi, là.
Oui, c'est ça. Ben, on a juste à regarder Flintstone.
Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Mathieu Tessier pour les liens musicaux et pour la mise en onde. Merci Monique, merci Yvan. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.